Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinès, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque le jeu de la dame The Queen's Gambit, la mini-série Netflix qui a enflammé la toile en fin d'année dernière. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière. On y a parlé du sujet principal de la série, les échecs, du travail qui a été fait pour que les parties jouées à l'écran collent à la réalité et évidemment de l'histoire, de la narration et de la réception que le public a réservée à ces épisodes. Aujourd'hui, on prend un peu de hauteur pour s'intéresser au showrunner. À mes côtés, pour vous livrer tous les secrets des coulisses de cette série, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors les showrunners de Queen's Gambit, ce sont Scott Frank et Alan Scott. On va bien sûr revenir en détail sur Scott Frank, un scénariste et réalisateur bien connu à Hollywood. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de son binôme. Frank donc a réalisé The Queen's Gambit, mais il n'a pas travaillé tout seul côté écriture. À ses côtés, le scénariste et producteur écossais Alan Scott, Alan Chiash de son vrai nom. Il a été scénariste sur plusieurs films de Nicholas Roeg, dont The Witches, Les Sorcières, qui a été d'ailleurs on a récemment vu un remake par Zemeckis. Il a aussi été producteur de Petit meurtre entre amis de Danny Boyle. Et donc Alan Scott s'intéressait à cette histoire, à The Queen's Gambit, depuis longtemps. Il a acquis les droits du roman en 1992. Il a écrit lui-même l'ébauche du scénario et plusieurs réalisateurs ont été approchés. Michael Apted à l'époque, tout d'abord, mais le projet n'a pas abouti. Et puis Bernardo Bertolucci qui a repris le flambeau. Les deux hommes ont travaillé dessus pendant un an, mais encore une fois, les choses sont tombées à l'eau. Après plus d'une décennie au fond d'un tiroir, le projet refait surface en 2007. Et là, qui relance la machine ?
Scott Frank. Déjà, pour revenir sur Alan Scott, tu l'as cité comme le scénariste des sorcières de Nicolas Roeg. Je comprends, c'est ton époque, ta génération. Mais c'est aussi surtout celui d'un film d'horreur qui s'appelle Ne vous retournez pas, et qui a traumatisé beaucoup de monde dans les années 70. Donc voilà, je tenais à le remettre sur les rails. Mais effectivement, Scott Frank a bossé avec Alan Scott sur une énième tentative de le porter à l'écran, qui aurait dû être la première réalisation de Heath Ledger avant qu'il ne décide de malencontreusement nous quitter. À l'époque,
je sais pas s'il l'a décidé, mais
voilà. À l'époque, il était question que le rôle soit interprété par
par Elliot Page.
Hélène devenue Elliot Page. Ce qui me concerne, un peu curieux comme choix de casting, parce qu'on, dans le précédent épisode, on parlait de l'incroyable expressivité du regard de Anna Taylor-Joy et du rôle fondamental que ça joue dans cette série. Pas que Elliot Page soit aussi expressif que ça, mais bon. Après,
enfin, ceci étant dit, à cette époque-là, son aura, c'était celle d'un personnage intelligent, en fait. Elle avait, elle avait à l'époque
cumulé pas mal de films indépendants,
Hard Candy, Juno, ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est ce qui, je pense, en fait, faisait que ça semblait cohérent de lui confier ce rôle-là, quoi.
Et le travail entre Ledger et les deux Scott, était plutôt pas mal avancé, hein, puisqu'il y avait quand même 109 pages de script qui avaient été écrits. Ils avaient commencé à discuter de la musique. Et puis, bon, effectivement, le décès de Heath Ledger a tout stoppé en janvier 2008. On a une citation de Scott, alors je les mélange, une citation d'Alan Scott qui dit avec ça, bon bah il faut juste attendre la bonne occasion et trouver le bon réalisateur. Je pensais que c'était le cas de S, bien que ça soit un sujet très commercial. Ce film sera vu comme un film d'art et d'essai. Il faut donc faire appel à des acteurs forts et faire un beau film pour avoir une chance de connaître un grand succès. Bon bah finalement en mars 2019. Le réalisateur, le bon, il a été trouvé, la personne de Scott Frank.
Tout simplement, ouais. Ce que je trouve intéressant dans cette alliance entre ces deux scénaristes, c'est que, alors ça, c'est un avis totalement personnel, hein, mais moi, je trouve que Alan Scott, c'est un gars qui est pas du tout structuré, en fait. Les films qu'il a écrits pour Nicolas Roeg sont certainement intéressants en termes de personnages et d'ambition psychologique, on va dire. Par contre, c'est très libre dans la forme et ça part toujours un peu dans tous les sens, au sens dont on a l'impression que le gars fait un peu ce qu'il veut sans tenir compte des réactions émotionnelles de son audience. La seule fois où il a tenté de faire un film structuré, commercial, entre guillemets, traditionnel, c'était au milieu des années 80, c'était un film qui s'appelait Daryl, qui est une véritable catastrophe, mais que, voilà, bon bref. Là où Scott Frank, par contre, il est entre autres connu et respecté pour l'incroyable finition de quasi maniaque de ses scripts, qui en plus rejoint le caractère obsessionnel et au fond très organisé de l'héroïne de The Queen's Gambit. Donc c'est marrant que les deux, que ces deux-là aient pu bosser ensemble. Mais effectivement, Scott Frank avait des velléités de réalisateur et là c'est intéressant parce que c'est un peu la cette série, c'est un peu la revanche définitive des scénaristes, parce qu'il faut savoir qu'à Hollywood, il y a toujours eu entre la télévision et le cinéma, deux façons même d'aborder la question du pouvoir créatif dans le cinéma. Le pouvoir créatif, c'est très clairement le réalisateur. On dit à Hollywood, c'est celui qui a la plus grosse, c'est-à-dire il a toujours le dernier mot. Et les scénaristes hollywoodiens sont des gens qui ont de tout temps beaucoup souffert par rapport à leur création. En gros, une fois qu'ils ont livré leur travail, on les met à la poubelle et ils ont même pas le droit de venir sur le plateau et voilà. Et on change ce qu'on veut. Voilà, on a des tas d'histoires de scripts qui ont été complètement massacrés par des réalisateurs à même le plateau, hein, arrachés des pages, à plus se soucier de quoi que ce soit. Et comme il n'y a pas la question du droit d'auteur comme on l'a en Europe, voilà, les types, ils sont très bien payés, mais pour leur silence d'une certaine façon. À travers des personnages comme Scott Frank, on a des gars qui, pour justement garder encore un peu de contrôle créatif, ont eu envie de se lancer dans la réalisation et aujourd'hui se retrouvent à bosser au fond pour la télévision qui de tout temps a au contraire été l'espace de refuge des scénaristes puisque la télévision elle contrairement au cinéma la télévision américaine le réalisateur il est interchangeable, c'est vraiment celui qui écrit qui détermine là où va la série et là aujourd'hui dans la configuration qu'on a fini par atteindre avec le développement de toutes ces plateformes, on se retrouve au fond avec des scénaristes qui ont complètement repris le pouvoir créatif, y compris jusqu'à réaliser eux-mêmes leurs propres écritures. Donc c'est une confirmation, on va dire.
Alors Scott Frank, simplement pour présenter en quelques mots qui il est, parce que peut-être que nos auditeurs ne savent pas tous, hein, c'est notamment le scénariste de Minority Report,
entre autres, ouais.
De Logan également.
Et qui avait été oscarisé très tôt dans sa carrière avec un film dont je suis pas super fan mais qui s'appelle Get Shorty.
Mais qui est très populaire pour le coup. En fait, c'est un personnage intéressant, Scott Frank, parce qu'il travaille. Alors déjà, c'est un lettré au sens vraiment, c'est quelqu'un qui s'intéresse c'est un lecteur avide de romans de gare, de voilà, et il travaille deux mythologies typiquement américaines, hein, qui sont le western. Et le film noir, en fait.
Oui.
Et c'est quelque chose qui le fascine, puisqu'en fait, il a beaucoup travaillé sur ça. Logan, par exemple, ce n'est qu'un western. Hein, je veux dire, même si c'est un film de super-héros, c'est traité comme un western. Il a fait cette série pour Netflix qui s'appelle Godless, qui est un western aussi. Get Shorty, c'est un film noir, hein, c'est un roman noir, hein, puisque c'est adapté de d'Elmore Leonard.
Et il avait été engagé sur Minority Report pour justement amener la qualité film noir à un script qui, au départ, était trop SF.
Voilà, qui était censé être la suite plus ou moins de Total Recall en fait, la suite spirituelle presque en fait, j'ai envie de dire.
Non, au départ c'était Minority Report, c'était Total Recall 2, voilà. Avant réécriture, voilà.
Et du coup en fait c'est quelqu'un qui donc de toute façon déjà puise son inspiration dans la littérature. Donc ça semble cohérent en fait qu'il adapte quelque chose comme le jeu de la dame quoi, et que tout vienne de là, et ça semble cohérent qu'il le mette en scène finalement pour deux raisons, c'est-à-dire que effectivement comme tu l'as dit, il a des velléités de passer à la réalisation puisque c'est un scénariste en fait. Il a longtemps été scénariste, il a travaillé pour Kenneth Branagh, il a travaillé pour Steven Soderbergh aussi, etc., etc. Sur des thrillers et des films noirs, hein, parce que par exemple moi j'aime beaucoup son travail sur Hors d'atteinte, hein, sur Out of Sight de Soderbergh, avec déjà une narration assez soutenue, quoi, assez efficace en fait dans pour un récit qui mine de rien. Tentaculaire quoi, et enfin pas tentaculaire mais en tout cas déstructuré, et c'est quelqu'un qui avait passé à la réalisation au cinéma, c'est-à-dire qu'il a fait deux films qui n'ont pas marché, qui sont The Lookout, qui est aussi un film noir, alors c'est son petit film noir à lui quoi, avec j'ai oublié son nom, l'acteur qui joue généralement chez Zemeckis, il était dans The Walk par exemple, l'acteur principal de The Walk,
oui
je retrouverai, bref, mais
dans Inception.
Et dans Inception, voilà. Il a aussi en fait adapté
Joseph Gordon-Levitt.
Merci.
Levitt, pardon.
Ouais, et il a aussi adapté, par exemple, Balade entre les tombes, en fait. Et ce Balade entre les tombes, c'est pareil, c'est une adaptation d'un roman qui est de Lawrence Bloch. Et c'est un bide en fait aussi quoi. Donc en fait quelque part le fait qu'il se retrouve à la télé sur Netflix et qu'il continue en fait ce travail, c'est presque comment dire, c'est à la fois une aubaine. Et à la fois quelque chose de totalement cohérent dans le sens où en fait ça lui permet de pour le coup de développer vraiment son matériau sur la longueur. Je pense que il vaut mieux avoir le jeu de la dame sur Netflix réalisé par Scott Frank sur 7 épisodes que réalisé par Michael Apted dans les années 90 à mon avis, hein, en film d'une heure et demie. Quoi.
Même Bertolucci n'aurait pas été eu grâce à tes yeux parce qu'il y a eu Bertolucci, il y a eu Tom Tykwer qui devait le réaliser à un moment donné, mais bon c'est vrai que Michael Apted ça faisait un peu mal.
Et puis c'est compliqué parce que en fait les films, je pense aussi que la raison pour laquelle le film ne s'est pas vraiment monté à l'époque, c'est qu'il y avait quelques films bien reçu par la critique, hein, notamment dans les années 90, sur la toile de fond du jeu d'échecs, mais qui n'ont pas marché en fait. Hein. Je pense à In Search of Bobby Fischer, en fait, voilà, qui est un joli film en fait sur un petit surdoué, mais qui même s'il a une petite aura de films bien critiqués, en fait, il n'a pas du tout marché au cinéma. Donc du coup, je pense que l'échec d'un film comme ça amène à ranger dans les tiroirs en fait un projet comme le jeu de la dame. Donc finalement c'est une bonne concordance en fait, c'est assez cohérent et surtout moi je trouve que ce qui est intéressant pour moi dans, alors c'est intéressant, c'est un des problèmes que j'ai avec le jeu de la dame, c'est visuellement en fait la façon dont le film, enfin la série est pensée, cette espèce de moi comme je pense qu'il vient du film noir en fait, j'ai tendance à croire que mais je peux me tromper hein, c'est un avis complètement je me suis fait cette réflexion en regardant la série. Je me suis demandé s'il voulait pas la faire en noir et blanc. C'est-à-dire s'il avait pas cette idée de se dire, bah, je vais la faire en noir et blanc, comme dans un film noir, comme un truc comme ça, etc., etc. Et que je pense que c'était pas forcément la volonté de Netflix ou l'envie. Et que du coup, en fait, ils sont arrivés à un compromis de désaturation de l'image, que j'ai du mal à m'expliquer parce que je trouve pas ça très, agréable à suivre en fait.
Il a fait des repérages et il avait notamment d'après lui un lobby d'hôtel à Toronto qui était entièrement conçu autour du jeu d'échecs. Il a pris des tas de photos en haute définition de ce lieu-là et à un moment donné une gamine était en train de courir dans le lobby dans une jupe, dans une robe jaune. Elle est passée devant son, voilà, et ça a donné une photo que j'ai là. Bon, on est sur un podcast audio, personne ne la verra. Et elle a eu cette photo en fait de cette table d'échecs avec cette silhouette jaune qui passe par derrière. Et en fait, les contrastes de couleurs un peu satiné, c'est peut-être pas le bon terme, l'ont frappé, et donc la décision de colorimétrique a été déterminée
Moi je trouve que c'est étrange, c'est une désaturation. Je trouve que ça met pas en valeur les décors, ça met pas en valeur les costumes, ça met pas en valeur l'époque à proprement parler.
Et pourtant,
quoi,
c'est quelque chose qu'on a souvent vu au cinéma, hein, cette désaturation des couleurs par rapport aux années 60. Tu reprends la deuxième partie des Affranchis de Scorsese, il y a cette désaturation.
C'est un peu plus fin que ça.
Ouais.
J'ai envie de dire.
Voilà. Alors, j'en profite pour faire une brève parenthèse sur les décors, parce qu'ils sont quand même assez impressionnants, hein, dans l'histoire. Best parcourt le monde pour jouer participer à différents championnats d'échecs. Et donc, elle va à Las Vegas, à Cincinnati, à Mexico, Moscou, Paris. En fait, la quasi-totalité du film a été tournée à Berlin, puisqu'on cherchait, pour rappeler l'esthétique des deux décennies pendant lesquelles l'histoire se déroule, hein, années 50, années 60, on cherchait des intérieurs qui s'y prêtaient. Et donc, c'est à Berlin qu'on a trouvé des hôtels, des restaurants qui collaient vraiment bien à l'époque. Certaines scènes ont aussi été tournées au Canada, on l'a dit tout à l'heure, en Ontario notamment.
Et par rapport à la question de la réalisation, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que la façon d'écrire de Scott Frank, c'est quelqu'un qui était connu pour livrer des scripts, vraiment ce qu'on appelle des scripts finis. C'est-à-dire, en gros, tout est là. Et aux États-Unis, il y a une règle à la noix, comme toutes les règles, qui conseille aux scénaristes de ne jamais réaliser, c'est-à-dire de ne pas prendre le temps dans leur script de dire ce que la caméra est censée faire, etc. Ce que lui ne respecte pas, tout simplement parce que son écriture n'est pas basée, elle se base pas sur des idées, mais sur des détails. C'est-à-dire que ce qui lui permet lui de construire une scène et de construire un personnage, c'est le détail parlant. Il va chercher un détail qui a du sens, donc ce qu'il appelle tout simplement en anglais the telling details. Voilà, si la cafetière sur la table a un sens dans la vie de ce personnage là, eh ben on va construire toute cette scène en partant de cette cafetière, et c'est elle qui va décrire dans son scénario, et c'est de elle que le lecteur du scénario va déduire les émotions, les sentiments, les idées qui sont en jeu. Et du coup il réalise dans ses scénarios. Donc finalement, c'était normal pour lui de passer à la réalisation, tout simplement parce qu'en passant à la réalisation, il respecte ce qu'il a écrit, il connaît l'importance des détails qu'il a mis dans le champ. Et ça, c'est très parlant dans l'ouverture de The Queen's Gambit, qui démarre en fait dans une chambre d'hôtel plongée dans l'obscurité, où on a quelqu'un qui tambourine à la porte, qui parle une langue étrangère. Alors nous, on est français, donc on entend du français, mais les Américains disent qu'est-ce qui se passe. Cette jeune fille qui se réveille dans un chaos total, elle voit pas où elle met les pieds, etc. Et elle sort de ce chaos pour rentrer dans une espèce de lumière aveuglante de quelqu'un qui a la tête de bois. Donc on se doute qu'elle a passé une nuit abominable. Donc on passe de l'obscurité au chaos, on passe de cette pièce très renfermée à ce lobby d'hôtel gigantesque, qui va la mener finalement devant son adversaire qui est en train de l'attendre depuis un moment, et à qui elle va essayer de sortir un petit pardon embarrassé. Voilà, et entre temps elle s'est transformée de la nana avec la gueule de bois monstrueuse, hein, une fille extrêmement présentable sous le flash des photographes, qui du coup devient assez agressif au niveau de la bande son. Donc ça, c'est des principes de mise en scène filmique et pas du tout scénaristique. Ils sont tous dans les premières pages du scénario. Tous ces éléments que j'ai cités sont là. Et donc, ils travaillent cette musicalité-là de contraste violent, tout simplement parce que c'est ce qu'il est en train de chercher à raconter à ce moment. Il est en train de chercher à nous dire, je vais pas encore vous dire qui est ce personnage, mais sachez que ce personnage, il est coincé entre ce chaos total, invisible aux yeux du monde, et ce monde absolument aveuglant dans lequel ce personnage essaie de se tenir, en fait, quoi. Voilà, on a Beth, elle nous est présentée d'une façon admirable par ce jeu de contraste et ces variations extrêmement rapides, parce qu'en plus ça donne un dynamisme, c'est-à-dire que ça fait participer le public pendant toute cette scène d'ouverture. En tant que spectateur, on est en train de se dire: mais c'est qui cette fille? Pourquoi elle est là? Pourquoi autant de gens l'attendent alors qu'elle est censée avoir fait la fiesta? Enfin,
ça nous accroche tout de suite. Oui. On est tout de suite plongé en cœur de l'histoire sans avoir à subir une longue scène d'exposition.
Exactement.
Ouais. Et c'est très malin.
Et donc, son écriture scénaristique, elle était de toute façon ça l'a déterminé à devenir un réalisateur. Donc, il prend vraiment sa revanche en faisant The Queen's Gambit, et en prenant sa revanche, finalement, il venge tous les scénaristes frustrés qu'Hollywood a pu torturer dans les années 80-90.
Même si on peut quand même préciser qu'il a quand même été assez bien servi.
Non, il a eu,
pour le coup, contrairement à
un énorme travailleur, il a un talent fou et donc il a bien réussi. Mais
non, mais je veux dire,
ça s'est pas fait tout seul.
Non, ça s'est pas fait tout seul. Mais ce que j'entends par là, si tu veux, c'est que il y a des films en fait dont les mérites lui reposent aussi sur lui. C'est-à-dire que moi, je pense à Logan ou je pense par exemple à Out of Sight, Hors d'atteinte. Ce sont des films en fait qui fonctionnent. Déjà, en fait, les gens, je pense, les apprécient vraiment sur la base du scénario, et les scénarios sont vraiment respectés. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui concentre énormément d'enjeux vers un double climax en général. Il y a ça. Je trouve que c'est un des petits points où j'avais pas forcément. En fait, ce qui est étrange, c'est que c'est cohérent en fait que le dernier épisode se concentre en fait sur cet énorme tournoi en fait, mais c'est presque j'ai l'impression que c'était presque géré pour moi en fait déjà le ce que elle avait traversé, parce que quand elle arrive là, finalement le fait qu'elle gagne, c'était pas le je pense que c'est primordial pour le spectateur hein, et pour la réussite populaire de la série quoi, mais pour moi elle avait déjà gagné en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que en fait elle avait gagné quand elle a retrouvé entre guillemets la photo et le père de substitution quoi, c'est-à-dire que pour moi c'était réglé, elle était sortie de son
purgatoire.
Voilà. Donc du coup en fait, bah comme c'est un jeu, comme c'est une série sur les échecs en fait, bah forcément il fallait qu'il y ait un vrai climax, mais c'est ce que j'appelle le double climax. C'est-à-dire que en gros, tous les éléments convergent vers une situation, et c'est par exemple, c'est ce qui fait même si c'est beaucoup plus ramassé dans par exemple Hors d'atteinte, c'est ce qui fait dans Balade entre les tombes. Et je m'étais fait cette réflexion que Hors d'atteinte, c'est pas lui qui a réalisé, c'est Soderbergh. Et Balade entre les tombes, c'est lui, pour le coup, c'est Scott Frank. Et en fait, il y a le même type de double climax, en fait, très ramassé dans une maison, etc., etc., avec des enjeux, des coups de feu, un truc très film noir et tout. Et en fait, c'est beaucoup mieux géré dans Balade entre les tombes, parce que d'un seul coup, lui, il sait exactement ce qu'il veut vraiment avoir comme effet, que dans Hors d'atteinte, où c'était un petit peu bordélique. Et en fait, on n'arrivait plus du tout à suivre. Enfin, on arrivait à suivre, mais c'était un petit peu chaotique, quoi, pour finalement pas grand chose, comme si Soderbergh n'avait pas forcément exactement compris ce qu'il fallait faire avec tous ces moments là quoi, et effectivement c'est ça démontre que dans sa logique d'écriture il avait pensé effectivement à la façon dont ça doit se dérouler pour que le spectateur en fait soit totalement au clair avec ce qui est en train de se passer, et ça c'est effectivement une force de scénariste en fait à la base, que de présenter quelque chose en fait qui est difficilement adaptable entre guillemets, parce qu'il faut vraiment en fait suivre les consignes quoi, et c'est ça effectivement, des scripts entre guillemets clés en main qui fonctionnent très très bien quoi, mais c'est ce qui est intéressant aussi avec le jeu d'âme, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que je trouve qu'il a une connotation de film noir en fait, elle a une connotation de film noir cette série, et notamment par exemple je pense à dans la façon en fait d'écrire des personnages féminins frappé par un des tropes du film noir, évidemment c'est la femme fatale, mais la femme fatale elle est présentée en fait comme un personnage vénéneux, dangereux, mais qui a en fait des vraies failles. C'est-à-dire en fait qu'il y a des failles intéressantes, parce que la parodie de ça, c'est comment elle s'appelle, c'est Jessica Rabbit qui dit j'y peux rien, je suis dessinée comme ça.
Dessinée enfin, comme voilà, ça
oui. Mais lui en fait il pousse un petit peu cette logique là, et en fait il y a c'est pas un personnage de femme fatale, par exemple la mère adoptive de Beth dont j'ai oublié le prénom, mais par contre elle a les mêmes constructions de failles, elle a les mêmes logiques, et c'est très intéressant parce que du coup ça crée en fait des contrastes en fait de personnalité, je trouve très très fort, et pour moi j'ai ce sentiment quand je vois ce personnage là que je trouve très touchant. Parce que c'est une femme qui est vraiment délaissée en fait par son mari, parce que c'est une femme qui ne sait pas quoi faire de sa vie elle-même, et qui finalement en fait se retrouve avec cette fille qu'elle avait pas eu en fait avant, et qu'elle finit par avoir, et qui en fait elle rentre dans son intérêt à elle en fait, par justement un intérêt financier, mais sauf que tu comprends par la force des choses que finalement elles deviennent vraiment amies quand même et tout, proches et tout. C'est un beau personnage, c'est vraiment un très joli personnage, qui fait que je spoil hein, quand elle finit par mourir en fait de sa C'est-à-dire, on te dit que c'est une hépatite, mais en fait, de sa solitude, en fait, oui, non, mais de sa solitude, en vrai, en fait, du fait d'avoir été délaissé, non seulement, en fait, c'est touchant et tragique, mais en plus, c'est un espèce de, comment dire, cri d'alarme, en fait, pour le personnage de Bess, parce qu'en fait, elle va dans cette direction, elle était en train de lui prendre sa personnalité, en fait. Et donc, c'est très, très bien pensé, c'est très, très bien écrit, et c'est vraiment, je trouve, des notions, détournées, parce qu'il n'y a pas d'aspect policier, on va dire, dans le jeu de la dame, mais c'est des notions de film noir, en fait. J'y vois, en fait, une vraie caractérisation comme
très,
ça.
Très clairement, oui. Je parlais dans le précédent épisode de Bildung's Romance par rapport à la structure globale, mais effectivement, la tonalité film noir, elle est d'autant plus marquée que le principe même des échecs, c'est de tuer son adversaire, et que cette jeune fille, au fond, sa seule place dans le monde, elle va la trouver en exécutant des gens, hein. Donc c'est un hitman quelque part, et de toute façon il y a tout un jeu de séduction qui se met en place dans son rapport avec tous ces hommes avec lesquels elle va se retrouver en compétition, qui renvoie justement à l'image de la femme fatale. La femme fatale dans les films noirs, de toute façon, c'est un personnage qui est né aussi d'une frustration, précisément parce que la grande époque c'est les années 30-40, d'une époque où justement le public féminin était majoritaire dans les salles de cinéma, mais ne trouvait pas encore sa place dans la société américaine. On lui présentait des femmes qui étaient des femmes extrêmement ambitieuses, mais qui au fond n'avaient pas d'autre choix dans le cadre de cette société que de passer par l'illégalité et le meurtre pour obtenir leur fin. Et c'était généralement, bien sûr, des femmes extrêmement intelligentes, dont on prenait un certain plaisir à suivre les plans machiavéliques qu'elle mettait en place, quoi. Donc on retrouve, il y a un héritage de ça, même si pour le coup Beth est absolument pas machiavélique au fond, c'est-à-dire elle pourrait l'être en tant que grande calculatrice de on va dire autiste gamine capable de calculer très très vite, elle aurait fait un Hannibal Lecter absolument terrifiant. Bien heureusement elle a trouvé les échecs, ce qui lui permet de mener une vie à peu près humaine, quoi. Mais donc voilà, il y a des restes de films noirs qui sont, je pense, totalement assumés par Scott Frank, quoi. Et aussi, il faut le rappeler, hein, de films de sport, parce que ça, c'est quand même rythmé par les compétitions et par le fait que petit à petit elle va se trouver des mentors pour pouvoir justement se dépasser elle-même. Donc c'est pas Rocky, mais ni Karate Kid, mais il y a un peu de ça quand même.
C'est intéressant cette utilisation là, mais c'est plus une manière, j'ai l'impression, de se poser la question vis-à-vis des deux blocs, en fait, c'est-à-dire en gros les États-Unis puis le bloc de l'Est, et en fait de pointer du doigt que si en fait d'un côté il y a l'individualisme, de l'autre côté il y a l'aspect je sais pas quel terme utiliser exactement, le collectif, en fait, et en gros c'est ce collectif, en fait, qui va l'aider, enfin qui va la booster en vrai, en fait, à gagner, même si finalement, en fait, elle garde quand même ses propres coups à elle, en fait, et ses propres parties à elle. Elle suit pas forcément exactement la démarche qu'on lui donne, quoi. Et ça, je pense que c'est une question, en fait, c'est pour le coup, c'est l'aspect, en fait, compétitif. Tu parles de Rocky, mais moi j'avais envie de dire c'est sa réponse à Rocky 4 presque, en fait, mais en invitant justement tout ce côté impérialiste et triomphaliste, quoi, en fait, en étant vraiment dans un truc où il veut ramener ça à, voilà. C'est pas forcément la partie que je préfère dans le film, dans la série, je veux dire, mais disons que c'est son fonctionnement, en fait, c'est-à-dire prendre la petite histoire pour la mettre dans la grande histoire, en fait, et c'est quelque chose qu'il arrive à faire très très bien, en fait, en général, quoi.
On a quand même réussi à caser Rocky 4 dans un podcast.
Ça parlait de Rocky, fallait que je parle de Rocky.
Évidemment.
Prince Gambit, je crois qu'il y a que nous qui pouvions le faire. Mais...
Et donc oui, les échecs, c'est un sport. Si la collaboration Scott Frank Anya Taylor-Joy vous a plu, eh bien sachez que une autre est en cours de route, hein, puisque Scott Frank travaille actuellement sur un projet de film d'adaptation d'un autre roman, Rire dans la nuit, de Vladimir Nabokov. Dans cette histoire,
on y découvre un Berlinois quarantenaire qui tombe sous le charme d'une très jeune fille. Une idylle qui va peu à peu virer au cauchemar. Et apparemment, c'est la même équipe technique que celle qui a œuvré sur le jeu de la dame qui sera à nouveau mise à contribution. Et puis, c'est pas tout. Il a beaucoup de projets dans les cartons puisque donc Scott Frank va travaille aussi actuellement sur une nouvelle mini-série pour la chaîne FX. Série qui s'appelle The Sparrow et qui sera cette fois une adaptation du roman de Mary Doria Russell, The Sparrow, le moineau de Dieu en français. Pour l'occasion, il va s'associer avec le réalisateur Johan Renck qui a remporté un Emmy Award en 2019 pour sa série Tchernobyl. Et donc cette histoire The Sparrow suit un groupe de prêtres jésuites et de scientifiques qui sont dirigés par un linguiste et qui entrent en contact avec une espèce extraterrestre. Voyant cela comme un signe, le Vatican soutient alors une mission secrète sur une planète lointaine afin de prouver l'existence de Dieu dans tout l'univers. Je sais pas si ça vous fait réagir.
Une série avec des jésuites, oui, je sais.
Et des scientifiques, et des extraterrestres.
Non, ce qui nous fait réagir, c'est Scott Frank. De toute façon, voilà, je pense qu'il pourrait faire une série annoncée qui s'appelle La boîte de conserve. On dirait, je vais la regarder.
En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir Godless, autre très bonne mini-série qu'il a réalisée et qui est disponible actuellement sur Netflix. Godless, alors là, on change complètement de style, on n'est plus dans du film noir. C'est une revisite du genre du western, un show en 7 épisodes, comme le jeu de la dame, mais qui se passe dans l'ouest américain des années 1880, à La Belle, une ville assez particulière puisqu'elle est régie par des femmes après le décès de la quasi-totalité des hommes du coin. Et puis, deux nouveaux hommes débarquent dans cette ville et évidemment il se passe plein de choses. La série a été produite par Steven Soderbergh et elle a remporté 2 Emmy Awards en 2018. Avant de conclure, un petit mot sur Walter Tevis, l'auteur du roman, puisque on le mentionnait dans les épisodes précédents, hein, l'auteur du roman dont est tirée la série a vu d'autres de ses livres adaptés au cinéma. Est-ce que vous voyez lesquels ?
Non.
Alors, je pense que c'est des titres que vous connaissez. Il y a The Hustler, l'arnaqueur, sorti en 61.
La couleur de l'argent, la suite.
Avec Paul Newman. La couleur de l'argent, sorti en 86, réalisé par Martin Scorsese. Et puis, L'homme qui venait d'ailleurs, The Man Who Fell to Earth, réalisé par Nicolas Roeg.
Avec David Bowie.
Dans le rôle principal. Tout à fait, ça me semble être intéressant de le mentionner. Et puis, une autre info, alors là c'est à nouveau...
Je ne le savais pas, je n'avais pas retenu son nom et j'ai un peu honte parce qu'effectivement, à bien réfléchir, l'arnaqueur c'est très clairement le prédécesseur de The Queen's Gambit. Donc j'invite les gens à voir ce film magnifique avec Paul Newman. Je ne suis pas fan du tout du Scorsese en ce qui me concerne, mais le premier par contre est fabuleux.
Et alors, au programme des réjouissances à venir, annoncé début mars, on a appris que la célèbre compagnie Level Forward a racheté les droits du roman de Walter Tevis et développe actuellement une comédie musicale inspirée donc de cette histoire. On ne sait pas encore où le spectacle va être joué, mais d'après The Guardian, la comédie pourrait poser ses valises à Broadway. On va terminer cet épisode avec un petit quiz.
Alors, est-ce sur les échecs.
Vous devinez voilà, sur quoi il va porter. Effectivement, sur les échecs, on va rester dans la thématique. Je vais vous passer quelques extraits de films et puis on verra si vous trouvez lesquels.
Clémence va nous massacrer en deux coups, c'est fini. Quoi.
Ne soyez pas si pessimiste. On va essayer tout de suite avec le premier extrait.
Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Alors là, c'est pas traduit. Hein. J'ai pas trouvé la version française, mais la langue devrait peut-être vous aiguiller un petit peu.
Non, je suis à la ramasse. Ouais.
Non, vraiment pas. Pourtant, je m'étais dit, je commence assez facilement. C'est le septième saut d'Ingmar Bergman.
Ah, tout simplement.
Voilà,
d'accord.
La fameuse scène où le chevalier rencontre la mort et lui propose une partie d'échec pour retarder son trépas.
Pour des sauts trafic, c'est du suédois.
On regarde pas comme ça. T'as pas cité la Station Hero. Hein.
Non, bah. Je me disais qu'en suédois, ça serait plus simple que le reste à retrouver. Oui. Mais
il fallait reconnaître le suédois. Moi, j'avais l'impression d'entendre du russe.
Ah oui, c'était peut-être un petit peu trompeur. Alors, on va voir si avec le deuxième extrait, c'est plus simple.
How long have you been playing chess?
9,263 days. 4 hours and 5 minutes.
You have absolutely no small talk.
Yes.
Apart from chess, do you have any other abilities?
No. Yes, I dance a little.
Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose?
C'est un massacre.
Ouais, en plus, moi, j'essaie de m'aider de la musique pour retrouver le titre et ça marche pas.
Sorti en 2001, si je vous dis John Turturro dans le rôle principal.
Transformers.
La défense Lujin.
Oh là, mais je l'ai pas vu.
Ouais, ouais.
Bon, ça commence un petit peu difficile. Ouais. J'espère que sur le prochain extrait, je vais faire mouche parce que sinon, je vais commencer à me dire que c'est moi qui ai été un petit peu trop hard. En même temps, ça change. Hein. Les dernières fois que vous avez tout trouvé, donc ouais. Troisième extrait.
C'est un cataclysme.
Ce n'est pas un film qui parle d'échec à proprement parler, mais c'est un film qui recèle une scène quand même mythique.
Bien sûr, l'affaire Thomas Crown.
Exactement.
L'original de 68.
Ouais. De 68, l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison.
Avec une musique de Michel...
Michel Legrand,
voilà.
Qui a été récompensé. Pour l'occasion, et donc la musique qu'on entend, c'est une partie d'échecs mythiques entre Steve McQueen et Faye Dunaway à la fin du film.
J'ai toujours trouvé tout pourri en fait cette partie d'échecs, mais vraiment elle est montée d'une façon assez très 60s.
Alors pour l'extrait numéro 4, on va être sur quelque chose d'un peu plus récent.
Ouais.
On va voir si vous avez suivi l'actualité du cinéma de ces dernières années.
Si t'as plus de dame, t'es mort. Bam.
Il est un petit peu dur.
Tête d'huître.
Ça a pas de tête, une huître. Un peu bourru, quoi.
Fais chier. Oh,
je suis sûr que vous allez très bien vous entendre.
Qu'est-ce qu'il veut, lui?
I want to be champion of the world.
Tout le monde dehors. Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. Des morts. Not win.
Pourquoi la pochette à la mer que blanc?
Paf, bonne idée. Je devrais faire pareil avec certains.
Moi, j'ai reconnu le GG, mais après, je vois pas ce que c'est, quoi.
Ah, effectivement, c'est bien de par Dieu.
Ben voilà, c'est comme il l'a dit,
c'est un film avec Gégé.
Voilà, c'est un film qui s'appelle Fame, qui est sorti en 2019, réalisé par PEF, Pierre-François Martin Laval, avec donc Gérard Depardieu et un jeune comédien qui s'appelle Assad Ahmed. Depardieu incarne un professeur d'échecs qui entraîne un jeune Bangladais demandeur d'asile et qui veut devenir champion du monde, qui est particulièrement doué.
Et ça a fait 17 entrées.
J'ai pas regardé les audiences. Bon, le film suivant a fait plus d'entrées que ça, encore que... Mais celui-ci, vous devriez trouver.
Obvious. Yeti Bev, the guy who needs you.
Citoyen, veuillez vous adresser à l'arbitre.
Allons, je vous en prie. Pas d'incident. Cette partie est-elle nulle?
Bah, c'est pas la diagonale.
Oui.
C'est la diagonale du fou, là.
Ouais, c'est la diagonale du fou, absolument. Donc, on parlait dans le premier épisode du podcast. Sorti en 84, un film de Richard Dembo avec Michel Piccoli, et qui a donc remporté, tu le disais, l'Oscar
du meilleur film étranger à la surprise de tous les spectateurs français qui ignoraient jusqu'à l'existence du film.
Voilà, mais gros succès à l'étranger.
Du coup.
Sixième extrait. J'ai bien bossé. Sixième extrait, alors celui-ci...
Franchement, si vous ne le trouvez pas, je quitte ce studio.
Non, si vous ne le trouvez pas... Mais le style est reconnaissable.
«
Voici la morale de cette histoire. Le meilleur joueur d'échecs est celui qui prévoit un coup d'avance sur son adversaire. Nous prendrons un exemple classique, le coup dit du berger. Seule une débutante peut s'y laisser prendre.
Oh là là, bah, on est en pleine nouvelle vague. Donc c'est soit Jean-Luc, soit Robert.
C'est qui Jean-Luc?
Nom dropping maintenant.
Ouais, donc alors on est chez.
Ah, t'étais pas loin, ni l'un ni l'autre. Mais effectivement, on est dans la nouvelle vague, c'est Jacques Rivette.
Rivette, ouais.
Avec, je vais sortir, hein, j'y vais là.
Avec le coup du berger. Alors c'est pas un long métrage, hein, c'est un court, il dure une trentaine de minutes. Il est dispo en ligne sur Vimeo si vous voulez le voir. Et on a vraiment un bon aperçu du style de l'époque. C'est sorti en 56.
Non, mais bon, après, tu prendras en compte aussi tes partenaires de jeu, tu sais bien que Stéphane et moi, tu nous aurais mis la folle histoire du monde de Mel Brooks, voilà, la partie d'échecs en live qui se termine en orgie, on aurait trouvé tout de suite.
Ouais, mais du Rivette là, tu pousses un peu Clémence, tu pousses un peu.
Ah, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Allez, on va terminer avec le dernier extrait. Alors celui-ci, j'espère qu'on va finir sur une bonne note.
What's that?
Schwingman attack.
What'd you learn that from a book?
No, my teacher taught me.
Oh, your teacher. Well, forget it. Play like you used to, from the gut. Get your pawns rolling on the queen side. Come and get it.
Put it out. Josh is playing.
See, he didn't teach you how to win. He taught you how not to lose. That's nothing to be proud of. You're playing not to lose, Josh. You got to risk losing. You got to risk everything. You got to go to the edge of defeat. That's where you want to be, boy. On the edge of defeat.
But
what? Play.
Never play the board, always the man. You gotta play the man playing the board. Play mean. I'm your opponent. You have to beat me, not the board. Beat me.
You're not who I play.
You're playing me now. Come on, beat me.
Alors,
non, mais là, ça m'énerve parce que je l'ai en fait quelque part. Mais
tu l'as et en plus, on l'a mentionné dans cet épisode un petit peu plus tôt.
Non, mais c'est Bobby,
et c'est Bobby Fischer en fait. Ouais, c'est, mais
ça, c'est parce que tu nous as dit qu'on l'a mentionné.
Ouais. Et merci, non, mais merci à James Horner à la musique derrière. D'ailleurs, ça fait depuis tout à l'heure que j'attends d'entendre du John Williams. Tu nous as pas mis Harry Potter.
Non, je vous ai pas mis Harry Potter.
Et c'est quand même une partie d'échecs.
Ben oui, mais je cherchais des choses un peu plus anciennes. Je me suis dit que si je mettais que des films récents, j'ai pas non plus mis Le Prodige avec Tobey Maguire, parce que je me suis dit que vous allez trouver tout de suite.
Moi non plus, je pense qu'on l'aurait pas trouvé. Mais...
Donc non, là, c'était effectivement Bobby Fischer.
À la recherche de Bobby Fischer, ouais.
Je pense que nos auditeurs ont tout trouvé.
Absolument. Ouais. Une scène entre Laurence Fishburne et le jeune comédien... Et ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, qui est sorti en 93, ça raconte l'histoire d'un petit garçon très doué aux échecs qui va être confié à qui? Au professeur Pandolfini, justement, pour développer ses capacités. Oui, le Pandolfini donc, qui a été conseillé sur le jeu de la dame. La boucle est bouclée.
Et d'ailleurs, la musique que vous avez entendue sur cet extrait, vous la retrouvez dans le film Beautiful Mind de Ron Howard, ainsi que sur Brainstorm. C'est-à-dire, en gros, à chaque fois qu'Horner devait travailler sur des choses extrêmement cérébrales qui ont à voir avec la folie, la schizophrénie, la compulsion, etc., il avait toujours tendance à utiliser ce type de musique qu'on vient d'entendre, ce qui prouve bien qu'on est tout à fait dans le thème, en fait, qui est développé dans The Queen's Gambit, hein, celui de l'obsession-compulsion.
Si vous voulez en savoir plus sur les échecs au cinéma, je vous recommande la très complète analyse de l'émission Blow Up d'Arte. C'est disponible sur Arte TV et sur YouTube. Et puis je crois qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce deuxième et dernier épisode de notre collection consacrée au jeu de la dame.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une toute nouvelle collection, direction l'univers Marvel. On parlera de Vendavision et de Falcon and the Winter Soldier. D'ici là, portez-vous bien et à mardi prochain.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.